Petite enquête patrimoniale, présentée par Martine Balou.
Aujourd'hui, j'ai choisi un sujet qui va être en relation finalement peut-être aussi avec la saison, la température et ce que l'on a envie de retrouver parfois. Ce sont des bains douches à Périgueux. Alors les bains douches, classiquement, on connaît les derniers qui étaient donc dans la rue Louis-Mi et qui définitivement ont été fermés il n'y a pas si longtemps que cela, dans les années 70. C'est d'autres bains douches nommés Néréides, ceux du Second Empire, dont j'ai envie de vous parler ce matin, parce que le Second Empire est une époque personnellement que j'aime beaucoup et que le public aussi apprécie et parfois oublie ce qui s'est passé. Ces bains douches portaient un nom très rêveur, c'est-à-dire la Néréide. Néréide, dans la mythologie grecque, c'est une nymphe, des nymphes, hein, les filles, on va dire, marines, de Némée et de Doris. Vous vous rendez compte, à Périgueux, et cela se passait à l'angle des allées de Tourny, percées au XVIIIe siècle. Mais là, nous étions au Second Empire, au XIXe siècle. C'est-à-dire que en 1835, une société de bains va se constituer. Et en fait, le 7 juin 1856, un nommé Sabin Lacombe, un homme influent à Périgueux et manufacturier à l'origine du projet, reçoit l'autorisation municipale pour édifier d'abord un château d'eau. Ce château d'eau qui pointait son nez à l'angle de la rue de Barbecane et dont on a de très belles représentations. Et à son décès, malheureusement, les héritiers vont décider, en 1879, une fermeture de ces bains-douches dont je vais vous parler, vous décrire l'intérieur et l'extérieur dans quelques minutes. Et il va faire démolir ces bains-douches et construire une villa à la place qui, cette belle villa, porte encore le nom de Néréide à l'angle des allées de Tourny, du cours de Tourny plus exactement, et de la rue de Barbecane. Elle se dresse en pointe vers la rivière et a toujours un très très bel aspect. Alors le mieux pour vous décrire ces bains-douches avec ses 23 cabines et vous faire rêver, c'est une description que l'on retrouve dans des documents d'archives que je vais me permettre donc de vous présenter. C'est-à-dire au bout des allées ombreuses de Tourny, la Néréide, un vaste parallélogramme planté de grands arbres presque séculaires, dont la silhouette se réfléchit le soir dans la rivière de l'île, qui coule paresseusement à ses pieds, enveloppant dans une courbe gracieuse toujours la ville de Périgueux. Depuis l'arceau jusqu'à la gare du chemin de fer, au fond de cette belle promenade agréable, refuge contre les ardeurs du soleil, c'est d'actualité, à l'extrémité sud et séparée seulement par la route d'Exideuil, dont la ligne blanche, après avoir sillonné la vallée nord de la ville, se perd bientôt à l'horizon, entre des massifs d'arbres et de verdure, s'élève un frais et coquet établissement de bains, auquel on a donné le nom de Néréide. C'est bien en effet le séjour d'une des déesses des ondes. Donc ça nous fait vraiment rêver. Aujourd'hui, peut-être un petit peu moins, puisque les allées de Tourny sont occupées par un parking. Mais n'oubliez pas, amis touristes et périgourdins, d'aller vous promener tout de même, d'aller jusqu'au bout des allées de Tourny sur le belvédéré, pour admirer le beau paysage de la rivière. Et sur la droite, vous aurez la villa Néréide qui nous rappelle finalement qu'il y avait ce magnifique bain-douche. Comment était-il constitué? C'était un pavillon carré avec au premier étage donc deux ailes qui formaient le premier corps. Trois côtés d'un quadrilatère, un petit jardin anglais au milieu, avec une pelouse fleurie par devant, et, comme je vous l'exprimais tout à l'heure, un château d'eau à quelques mètres à droite, sur le versant du plateau. Tel était le dessin remarquable de simplicité d'après lequel le fondateur avait créé cette petite merveille qui présentait un grand goût. La Néréide regardait l'Orient et au sommet, où le soleil se lève derrière le coteau de Saint-Georges, les puits, c'est-à-dire les collines, la vallée inondait la ville de ses premiers rayons. On avait déjà levé les stores de ses baignoires, on avait ouvert les fenêtres et préparé les toilettes pour accueillir le public. Les fleurs, comme on disait, de parterre souriaient en se dépouillant de leur manteau blanc et humide de la nuit aux caresses du jour et livraient également leur charme et leur parfum à l'astre régénérateur. Ce sont les passages d'un écrit d'une personne anonyme qui avait dédié ces quelques lignes à ce beau pavillon de bain. Il nous dit « Nous avons vu ce spectacle le matin d'un voyage qui nous avait tenus éveillés toute la nuit et où nous fûmes demander à la Néréide ses soins réparateurs. Il était 4 heures environ, au commencement de juin. Le soleil n'avait pas encore montré son disque de feu, mais l'aurore fuyait déjà à l'horizon, chassée par l'approche de ses premiers rayons. Bientôt, une lueur pâle frappe et éclaire la pierre, unie et brillante, du joli pavillon blanc au toit, ardoisé et couronné de gracieuses échancrures. La lumière descend rapidement sur le parterre dont elle ranime les fleurs fraîches et embaumées. Elle embrasse enfin l'établissement tout entier de cette teinte blanche qui fait aimer les matinées de printemps à la campagne où la lumière peut jouer avec les plantes et les arbres avant d'arriver légère jusqu'à vous. Enfin, une description. Les 20 fenêtres des baignoires avec leurs stores blancs et roses, peu rêver, les draperies de l'entrée du pavillon et les jalousies grises du premier étage à demi relevé, les allées du parterre sablées et parfaitement tenues, la pelouse toute blanche encore de la rosée de la nuit, des fleurs multicolores et les arbustes du jardin. La réfraction des rayons du soleil sur la pierre polie et froide font alors de la Néréide, si parfaitement parée dans sa pose nonchalante et coquette, un tableau plein de charme. L'intérieur de l'établissement répond à ce que l'on vient de découvrir par cette description. Des tentures à ramages bordées de longs glands et descendant jusqu'à terre interceptent la chaleur du jour et entretiennent la fraîcheur du salon élégant qui sert de salle d'attente. Dans cette pièce, petite, carrée de 4 mètres de côté environ, tendue de papier peint en guirlande de roses au parquet ciré, sont rangés des fauteuils et des bancs en velours grenat. Ils sont rembourrés, ces bancs, plus un bureau et une magnifique cheminée à console en marbre blanc et accompagnée d'une belle et grande glace. On complète l'ameublement simple, mais du meilleur goût à la mode du Second Empire. Devant le salon est une sorte d'antichambre avec nattes longues qui divise en 2 parties le corridor dessiné en fer à cheval. Partout, les cloisons sont de stuc, de cette admirable composition qui a toute la beauté et le poli du marbre, avec d'ailleurs des ressemblances à l'intérieur d'une partie de la préfecture du Second Empire aussi. Et à gauche, dans une petite aile séparée, on trouve des baignoires ordinaires, les chambres aussi avec des bains médicaux de toutes sortes, car nous étions à cette époque-là dans un esprit de détente, mais aussi de soin. Nous sommes au début de la grande période qui vient d'apparaître, qui est l'hygiénisme. Le corridor est tapissé de papier vert dont la couleur affaiblit encore les quelques rayons de lumière qui éclairent ce couloir. Le plancher, toujours le même sorte de plancher trouvé un peu plus haut, est ciré. Il a un air frais qui prépare la transition à l'atmosphère brûlante que l'on quitte en cette saison, aux douceurs recherchées du bain. Réconfortant et bienfaisant. C'est comme une bouffée, une première bouffée dans cette température nouvelle à laquelle on vient de demander le repos et la santé. Les salles de bain consistent, comme dans tous les établissements de même nature, en une petite chambre où l'on trouve une tablette, un porte-manteau, tous les objets indispensables aux baigneurs. Seulement, les meubles, là, y sont plus riches. Aucun des objets de toilette ne sont oubliés. La chambre offre un bel abat-jour que l'on soulève à discrétion et qui permet de renouveler l'air à volonté. Il y a de plus des chambres à deux bains et des salons de luxe. Les personnes qui aiment à goûter en sortant du bain y trouvent tout le confort désirable. Et surtout, une des dépendances de l'établissement dont nous n'avons pas encore parlé et qui n'en est pas moins fort remarquable sous le rapport du goût et comme objet d'art, c'est le château d'eau. Il est séparé de l'établissement principal par la rue Barbecane. Vous pouvez l'imaginer, il domine la rivière et sa forme est octogonale et s'élève en pyramide à une hauteur de 12 mètres environ. Au fait, on trouve une girouette qui s'agite et qui crie parfois en tournant à tout instant selon les caprices du vent. Le bâtiment est peint en rouge sous forme de brique. Cette couleur fait ressortir par le contraste la blancheur des encoignures. Ce dont a gardé aujourd'hui d'ailleurs en couleur cette magnifique villa qui porte le nom de Néréide et qui occupe l'emplacement des anciennes des bains-douches. L'intérieur était occupé par une roue en grenage mue par un cheval et qui faisait tourner une seconde roue à laquelle était fixé un long bras se prolongeant jusqu'au dehors. Ce bras faisait mouvoir un double piston, aspirant et refoulant alternativement dans un puisard pratiqué dans la rivière même et où l'eau se filtrait avant de monter par la pression de la pompe dans un réservoir d'un cube de 30 à 4 mètres qui était placé au premier étage du château d'eau. De là, elle tombait l'eau dans un canal souterrain qui traversait la rue et remontait par la force de la chute jusque dans le bassin où il y avait une chaudière qu'un flotteur tenait constamment et approvisionnait. C'était vraiment une construction extraordinaire pour l'époque. Le fourneau était perfectionné parce que, au lieu d'être placé immédiatement au-dessous de la chaudière, il était placé au milieu, de manière à ce que toute la chaleur soit utilisée, et après sa disposition, il suffisait d'un peu de combustible pour chauffer l'eau nécessaire aux besoins de la journée. C'était vraiment une machinerie très impressionnante et très en avance pour l'époque. La Néréide était, disait-on, un des établissements les plus complets qui pouvaient être trouvés en France et qui étaient vraiment réputé. Paris en parlait dans la presse de l'époque et le fondateur homme influent qui occupait une haute position sociale et qui était aussi connu par son désintéressement et sa sollicitude avait fait donc preuve d'une grande ingéniosité pour faire partager cette nouveauté de l'époque, au moins pendant 5 ans, à la ville de Périgueux, et la faire connaître aussi par ses eaux, on va dire, dans ses bains, qui étaient très bienfaitrices, et qui finalement nous remonte à une histoire que nous avons dans nos racines de la ville, c'est-à-dire le bienfait des eaux. Ne sommes-nous pas des pétrochores qui adorions le culte de la déesse Vesuna qu'adoptèrent les Romains un petit peu plus tard. En voici pour ce bel établissement. Nous n'avons plus qu'à le rêver et peut-être l'imaginer sous une autre forme, pourquoi pas, un jour peut-être.
C'était Martine Balou,
directrice du patrimoine, service ville d'art et d'histoire, ville de Périgueux.